Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face. L'admiration, c'est ce sentiment de joie, de plénitude face à une perfection, une beauté, ce sentiment d'émerveillement qui élève et qui attire vers plus grand que soi. Dans nos sociétés où prévaut un hyper-narcissisme qui se mesure à la bourse globale du mois, pour reprendre la belle formule de Carlo Stringer, l'admiration semble désuète. Quelles sont les bases d'une saine admiration qui met en joie et qui pousse à l'action? Existe-t-il un risque à trop admirer? Quels sont les pièges de l'admiration quand elle se confond avec l'idolâtrie? L'admiration élève, mais que dire quand on admire la célébrité ou la richesse, alors que l'acte d'admirer est d'abord une expérience de la beauté sous toutes ses formes? Éléments de réponse cet après-midi avec les philosophes Laurence de Villers et Martin Legros, et avec l'écrivain Michel Crépu. Mes complices cet après-midi, Marie-Laure Sunshine et Christophe André. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous êtes professeure de philosophie, doyenne de la faculté de philosophie à l'Institut catholique de Paris, et vous avez notamment publié un Que sais-je consacré à Descartes. Bonjour Michel Crépu au téléphone, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, critique littéraire, notamment au Masque et la Plume de notre ami Jérôme Garcin, directeur de la Nouvelle Revue Française, et vous avez publié chez Autrement l'admiration contre l'idolâtrie. Bonjour Martin Legros.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine. Alors, selon le petit Robert de la langue française, l'admiration est le sentiment de joie devant ce qu'on juge supérieurement beau ou grand. Martin Legros. J'ai l'impression que notre époque semble ne pas beaucoup admirer. Comme vous le rappelez dans Philosophie Magazine, dans notre monde horizontal, démocratique, collaboratif, l'admiration ne semble plus avoir la côte.
Oui, on pourrait croire en réalité que, en tout cas dans l'idéologie contemporaine, fondée sur l'autonomie, la réalisation de soi, l'admiration n'est plus sa place. Or, quand on interroge les individus, on se rend compte aussi bien que dans leur vie morale, dans leur vie psychologique, dans leur éducation, dans le choix d'une vocation, l'admiration, en réalité, continue secrètement de jouer un rôle fondamental. Dans admiration, il y a admirer, regarder. Eh bien, les enfants commencent par regarder les adultes. Ah, ça peut être des admirations néfastes, mais ça existe. Ça peut être des admirations positives, mais c'est en regardant des autres, regarder le monde, que nous apprenons à regarder le monde. Nous avons besoin de cette médiation pour apprendre à explorer, à regarder le monde. Et dans tous les domaines, quand on y réfléchit, que ce soit le choix d'une profession, que ce soit les œuvres qui ont compté pour nous, qui peuvent avoir compté, les écrivains qui nous ont fait découvrir des sentiments, eh bien, l'admiration en réalité continue de jouer secrètement, en dépit de l'idéologie que nous avons contemporaine, un rôle très profond.
Mais Laurence de Villers, j'ai l'impression que dans l'espace public, c'est davantage le dénigrement, l'envie, les passions tristes, plutôt que l'admiration qui tiennent le haut du pavé.
Ouais, parce qu'on a le sentiment qu'en critiquant ou en dénigrant, en ricanant, on fait preuve de plus d'intelligence que dans l'admiration. Parce que dans l'admiration, il y a un côté, à tort je pense, béat, c'est... On s'arrête, on est sans voix et on trouve qu'effectivement on est face à quelque chose qui est meilleur que soi, et de fait ça voudrait dire qu'on est en deçà. Donc je pense que il est tellement difficile de sortir de soi-même, de l'appréciation, de l'amour qu'on a pour soi-même, pour se dire que on est en train de regarder, comme le disait Martin, on est en train de regarder quelque chose de plus beau que soi, enfin de meilleur, de plus grand. Effectivement, c'est un exercice très difficile. Donc, l'admiration se joue entre l'ironie qui semble plus intelligente et l'amour de soi qui semble tellement plus facile, tellement plus immédiat. Donc, effectivement, je crois que c'est une vertu difficile. Vous l'avez remarqué peut-être, Ali, quand on pose la question « Qui admirez-vous ?», il y a un temps d'arrêt. Parce que c'est difficile de sortir de soi et de reconnaître qu'il y a quelque chose à admirer, enfin quelqu'un d'autre que soi à admirer.
Michel Crépu, je cite votre beau livre, cette époque qui se plaît beaucoup, admire peu, fourbue de déception, elle se méfie, préférant se consacrer aux inconstances d'un ego qui tolère mal qu'on le néglige. Mais tout de même, vous constatez que nous sommes saisis de brusques envies de sublime.
Oui, tout à fait. C'est une sorte de constante déroutante d'ailleurs, parce que l'expérience de l'admiration a partie liée avec l'expérience de la beauté. Et il n'y a pas d'admiration noble, enfin il n'y a pas d'admiration valable, si je puis dire, sans qu'il y ait en même temps une expérience de la beauté. Mais faire l'expérience de la beauté, c'est quelque chose d'énorme, c'est un vertige. C'est Cézanne qui regarde la Sainte Victoire tous les jours, qui qui ne cesse de reprendre le tableau et qui ne termine pas, et qui ne peut pas le terminer, parce qu'il y a aussi quelque chose d'inépuisable dans la forme de la beauté. Alors, c'est une, j'allais dire aujourd'hui, une sorte d'école de l'intelligence, en définitive. C'est contrairement, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là autour de la table, contrairement à une idée stupide reçue, l'admiration est le contraire de l'abêtissement, c'est le contraire de l'esprit qui se ferme ou qui s'incline bêtement, servilement. Non. S'incliner, c'est aussi grandir. C'est ça aussi une leçon, je crois, de l'admiration. En s'inclinant devant quelqu'un, devant quelque chose, une œuvre d'art ou une action, je ne sais pas, le général de Gaulle, le 18 juin, qui lance un appel inouï tout seul, sans personne pour le soutenir, eh ben, c'est quelque chose qui est totalement digne d'admiration.
Et Michel Crépu, l'admiration contient une part d'innocence et de désintéressement qui ne sont pas forcément les valeurs cardinales de notre époque.
Non, parce qu'il y a aussi effectivement une sorte d'obscurantisme, de l'ironie toute puissante, en définitive. Comme le disait très justement quelqu'un aussi autour de la table, on se croit plus malin en pratiquant l'ironie et la moquerie. J'en sais quelque chose au Masque et la Plume où on est très très versé là-dedans, mais en fait moi ça m'énerve beaucoup parce que la moquerie ou l'ironie peut être très intéressante à condition qu'elle s'applique d'abord à soi-même. Oui. Sinon, le résultat est très maigre. Ce que vous avez finalement dans votre besace à la fin, c'est pas grand-chose. Alors que dans l'admiration devant une œuvre d'art, je suis en train de relire en ce moment les volumes de Malraux, l'intemporel, l'irréel, le surnaturel, la métamorphose, ce qu'il avait regroupé sous le terme de la métamorphose des dieux, qui est vraiment... S'il y a un livre à lire sur l'admiration, c'est celui-là. Malraux nous administre une leçon magistrale d'humilité, d'intelligence et d'enthousiasme en même temps devant ce qui se présente à lui.
Martin Legros.
Oui, moi j'ai une question en réalité, une interrogation. Je me demande si, vous parlez de la beauté dans l'admiration, je me demande si l'admiration n'est pas d'abord un sentiment moral. Je m'explique. C'est-à-dire, je crois qu'on admire d'abord des êtres et que même dans l'admiration esthétique, on admire soit le créateur de l'œuvre, mais j'irais jusqu'à dire que dans un beau paysage, on a un sentiment presque religieux pour le supposé créateur de ce paysage. Et que donc, je dirais que dans toute forme d'admiration, on admire d'abord celui qui a pu, hypothétiquement, être à l'origine de cette beauté. Et donc, c'est d'abord moral.
Laurence de Villers.
Pour reprendre ce que disait Martin, je pense que dans l'admiration, il y a le sentiment... qui a une finalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui doit se produire, qui a un sens et qui a une direction. Et ça, c'est rare de sentir dans l'existence un sens qui se dessine et qui serait net. Et donc, je pense effectivement qu'il y a une dimension morale parce qu'on y voit, on touche du doigt une finalité. Mais Descartes, pour ne citer que lui.
Ah ben bon, oui.
Hélas, non, mais...
Votre bon vieux Descartes.
Non, mais là, ça s'impose, Ali, parce que Descartes fait de l'admiration la passion première. C'est pourquoi première? Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est la première qu'on ait face au réel, et c'est celle dont va découler les autres. Pourquoi l'admiration? Parce que l'admiration, c'est avant même la curiosité, le moment d'arrêt face à ce qui existe et qui va déclencher l'envie de savoir, l'envie de comprendre. Donc, s'il n'y a pas d'admiration, qui est une forme d'attention à ce qui est, bon, en fait, il y a une sorte de bêtise. On est indifférent et plat, sans émotion, face à ce qui est. Donc, Descartes fait de l'admiration le début de tout.
Et je cite votre bon vieux Descartes qui écrit dans Les Passions de l'âme, « L'admiration est une subite surprise de l'âme qui fait qu'elle porte à considérer avec attention les objets qui lui semblent rares et extraordinaires. »
Ben voilà, d'ailleurs, il est cartésien.
Et d'ailleurs, je rappelle qu'admirer vient du latin « admirari » qui veut dire « s'étonner ». Christophe André.
Oui, moi j'étais très intéressé par ce que nos invités philosophes notamment nous ont dit sur les difficultés à admirer. Je crois qu'il y a deux grands obstacles à notre époque vis-à-vis de l'admiration. C'est d'abord que l'admiration, elle est inégalitaire. Pour admirer, il faut reconnaître que quelque chose est plus haut que nous, nous dépasse. Et ça, évidemment, on n'aime pas trop ça. pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et puis le second obstacle, c'est que parfois l'admiration est perçue comme une forme de soumission, puisqu'on sait qu'il y a des formes d'admiration qui peuvent conduire au pire. Hein, quand on admire un chef animé de mauvaises intentions, il y a des gens qui admirent le nazisme, etc. C'est des admirations sincères, mais catastrophiques si elles sont suivies d'une soumission et d'une imitation. Je ne sais plus qui a dit un jour « l'imitation est la forme la plus sincère de l'admiration », mais alors il faut bien choisir qui on va imiter. Et dernier point concernant l'objet de notre admiration, c'est vrai qu'on peut admirer la beauté, mais on peut aussi admirer la bonté, le courage, la générosité. Et là, on retombe sur ces notions de vertu morale. Et c'est peut-être, moi, je suis plus touché par l'admiration portant sur les actes quotidiens, admirer quelqu'un qui fait une bonne action. Il me semble que c'est vraiment au cœur de notre nature humaine, au fond. Voir quelqu'un faire quelque chose d'admirable et qui est à notre portée également.
Je vais dans votre sens, Christophe André, la semaine dernière, dans le métro, sur la ligne 2, une dame très digne, âgée de 49 ans, qui s'appelle Hortense, une femme noire, séropositive, très digne, qui a dit voilà sa situation avec une humilité, un courage qui était absolument extraordinaire, qui a capté l'attention de la rame. Et voilà, moi j'admire cette dame que je ne reverrai sans doute jamais, et j'admire ce courage-là en l'espèce. Michel Crépu, vous vouliez réagir?
Oui, je partage aussi ce qui est dit là. Il y a une chose dans l'admiration qui est aussi, je crois, important. Je le ressens beaucoup quand j'écoute les artistes parler de leur travail. Je passerai des nuits entières à écouter un peintre ou un musicien qui explique et qui essaye de raconter comment, à quel point c'est difficile de jouer une sonate de Beethoven ou de Jean-Sébastien Bach, etc. Et là, j'ai l'impression d'entrer dans le vif du sujet où l'expérience de l'humilité n'est absolument pas contradictoire avec la dimension du travail, la dimension où on se confronte à une forme qui vous échappe parce qu'elle est inépuisable dans sa signification et donc on y revient sans cesse. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment décisif dans la discussion avec l'idolâtrie qui ne travaille pas. L'idolâtre ne travaille pas, alors que l'admiratif, lui, travaille, enfin peut travailler en tout cas.
Marie-Laure Zonshine, une femme actuelle.
Oui, et puis je trouve qu'il y a un aspect aussi très positif dans l'admiration, c'est que ça élève, ça transporte, ça inspire, ça motive. On parlait tout à l'heure de l'éducation, vous en parliez, Martin Legros, en début d'émission. C'est important aussi pour les jeunes qu'ils aient peut-être des personnes à admirer dans tous les domaines, ceux vers lesquels ils souhaitent se destiner plus tard, ou tout simplement parce que effectivement c'est une source de on se grandit finalement en admirant aussi.
Laurence de Villers,
oui,
vous qui êtes professeur.
vous le disiez, Ali, je pense que l'une des qualités qui suscite le plus immédiatement l'admiration, c'est le courage. Et dans le courage, il y a exactement ce qu'on est en train de préciser, c'est-à-dire quelque chose qui est plus grand que soi. Alors même celui qui fait preuve de courage, je pense qu'il y a une forme d'étonnement face à l'action, parce qu'on ne sait jamais avant d'agir si on va être capable de ce courage-là. Donc il y a vraiment, alors pour employer le terme technique en philosophie, il y a une transcendance, c'est-à-dire que là on est face à quelque chose qui est plus que la somme de nos capacités, plus que la somme de nos envies. Il y a un plus, et je pense qu'effectivement le courage est ce qui suscite immédiatement l'admiration.
Martin Legros.
Avec un tout petit bémol qui est la face sombre de l'admiration, c'est que vous l'avez très bien dit, dans l'admiration, il y a de l'inégalité, mais c'est pas l'inégalité totale, c'est pas une asymétrie totale. Pourquoi ? Parce que je peux, grâce justement à l'admiration, me dire que en admirant cet être grandiose, je participe un petit peu de son action. Il y a une forme de narcissisme dans l'admiration qui suscite du coup de l'envie, je voudrais être comme lui, mais peut-être aussi un peu de ressentiment. Il m'a pris ma place, la place que je voudrais occuper. Et donc, l'admiration est un très noble sentiment, mais elle dissimule aussi des faces parfois obscures et sombres.
Oui, absolument. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Moi, en écoutant Laurence de Villers, je pensais aussi à cette histoire de courage. Quand on a accompli un acte courageux, je crois que le réflexe ensuite, c'est pas de s'admirer. En général, on s'admire pas soi-même. On peut se dire, on peut avoir de l'estime, ça augmente l'estime de soi, mais c'est rare qu'on s'admire personnellement. Et ça en dit long aussi sur la complexité de ce sentiment qui nécessite une sorte à la fois de surprise et de distance.
Alexia Rivière, Julia Macarez et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission. Réalisé par Claire Destacan. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill, à leur admiration. Faut dire que j'avais la chemise à carreaux, la guitare derrière dans le dos, pour faire le cow-boy très beau, mes compositions. Elle me parlait anglais tout le temps, je lui répondais de trois mots bidons, des trucs entendus dans des chansons, consternation. Elle croyait que j'étais coureur, que j'arrivais des 24 heures avec mon casque en couleur, alors admiration. Je lui disais drapeau à damier, dérapage bien contrôlé, admirateur fasciné, télévision. Partons à la mer, dans ton bolide fendons l'air. Elle passe par le 80 ma traction, consternation. Je suis mal dans ma peau, en coureur très beau. And I just go with ma pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine. And I just go with ma pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Croyait que j'étais chanteur, incognito voyageur, tourné sur nos filles en pleurs, admiration. Faut dire que j'avais des talons aiguilles, le manteau de lapin d'une fille, des micro-bracelets aux chevilles, exhibition. Elle me dit chante-moi une chanson, j'ai avalé deux trois maxitons. Puis j'ai bousillé satisfaction, consternation. Je suis mal dans ma peau, en chanteur très beau. And I just go with ma pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. Je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine. And I just go with ma pince à vélo. Je suis bidon, je suis bidon. J'habite chez ma grand-mère, derrière le garde arrière.
Alain Souchon interprète ses bidons.
Oh, que c'est beau. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau.
Grand bien vous fasse.
Laisse-moi admirer. Au nom de Dieu, quelle merveille.
Ali Rébéi.
On dirait des petites pommes.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi à l'admiration avec les philosophes Laurence de Villers et Martin Legros et avec l'écrivain Michel Crépu. Est-il possible d'imaginer un individu qui n'admirerait jamais personne, un individu qui ne s'enthousiasmerait jamais, ni pour des individus, des œuvres, des paysages? Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence de Villers?
Ah, je pense que ce serait...
Vous fréquenteriez un tel individu?
J'espère en tout cas que je ne deviendrai pas cet individu-là, parce que je crois que c'est la marque indéniable d'une vieillesse. Alors je ne parle pas de la vieillesse en âge, hein, mais d'une vieillesse, c'est-à-dire que c'est être sec. C'est ne plus être capable de... Oui, il y a une forme d'enthousiasme. Alors, il y a une forme d'enthousiasme dans l'admiration qui peut être aussi sa face sombre. Parce que ça fait tomber dans le groupie. Et le groupie, c'est effectivement... Enfin, le groupie, où Christophe le disait, celui qui va aduler un chef. Là, c'est l'admiration qui baisse les bras. C'est-à-dire que c'est l'admiration qui se soumet entièrement et qui va faire... qui va ne faire qu'imiter, alors que l'admiration suscite, je crois, la volonté ou en tout cas l'envie de vouloir mettre son grain de sel dans le monde, donc d'y aller de soi-même, alors que l'admiration qui baisse les bras, c'est je vais totalement aduler, imiter, être sans voix. C'est ce que disait alors un auteur, ça va pas vous étonner, un livre que j'aime beaucoup, Thomas Bernard, dans Maîtres anciens, il dit l'admiration c'est une preuve de bêtise, c'est la preuve de la bêtise, parce que L'intelligence, au contraire, elle analyse, elle respecte, elle estime, elle réfléchit, elle pense, elle admire pas. Alors j'aime bien quand Thomas Bernard dit du mal des philosophes, généralement. Mais effectivement, il y a quand même ce danger dans l'admiration, il y a le danger de la soumission, ne plus penser, s'en remettre totalement à. Alors que la bonne admiration, elle demande, encore une fois, hein, me semble-t-il, elle demande de, elle suscite notre action, elle nous fait vouloir faire quelque chose nous-mêmes, peut-être pas d'admirable, mais en tout cas de faire quelque chose.
Michel Crépu, qu'est-ce qu'il manque à un individu qui n'admirerait jamais ?
Il lui manque tout, c'est le monde des personnages de Houellebecq. Écrivain que je peux, d'ailleurs, pour qui je peux avoir une certaine admiration pour son savoir-faire narratif et romanesque, mais les personnages de l'univers houellebecquien, ce sont des personnages qui ont été quittés par l'admiration, qui n'ont plus de ressort, ce courage dont vous parliez à l'instant, c'est quelque chose qui est absolument foncièrement nécessaire à l'admiration, et quand le courant ne passe plus, c'est immédiatement, on a affaire à une espèce de ramollissement qui est bien caractéristique, je trouve, des personnages de Houellebecq. Mais l'allusion à Thomas Bernhardt est aussi tout à fait juste. Enfin, bien entendu, c'est une espèce de guerre aussi, l'admiration. C'est un acte, en fait. C'est pas seulement une réception. La réception passive d'une forme supérieure, même si elle est esthétiquement acceptable, recevable, mais c'est plus que ça. C'est un entraînement. L'admiration entraîne à une action. Elle entraîne à un acte. C'est pas seulement consommer passivement ou dire « Oh, c'est beau ». Non, il y a plus que ça.
Martin Legros.
Oui, elle entraîne un acte, je dirais même qu'elle est un acte, c'est-à-dire qu'il me semble que ce qui distingue la bonne et la mauvaise admiration, c'est la capacité qu'on a de choisir ses admirations. Je vois par exemple, moi, avec mes enfants, quand j'arrive et que je leur dis « Ah, ça c'est super, ce film-là, ça c'est grand, ça c'est un grand classique », etc., qui me disent « Ouais, bof », etc., je suis déçu. Mais par contre, je suis très heureux quand eux arrivent et me disent « J'ai découvert un auteur, j'ai découvert ». Et il me semble que on peut pas simplement dire « admirer, choisir ». Choisissez les exemples que moi j'ai choisis, suivez-les. C'est la capacité de l'admiration, c'est la capacité qu'on a de choisir un peu ses héros, ça peut être un peu ridicule, mais de choisir son panthéon. Et dans le choix de son panthéon, on se singularise.
Christophe André.
Oui. C'est Michel Crépu parlait tout à l'heure de Houellebecq. Moi, ça me fait penser quand même que dans Houellebecq, il est très très clair que Houellebecq n'admire qu'une chose, c'est la bonté et l'amour. C'est récurrent dans tous ses romans. C'est un monde désolé où effectivement on n'admire pas, on est cynique, on est désabusé. Mais dès qu'émerge une figure porteuse de bonté altruiste, eh bien, on sent que Houellebecq est perdu d'admiration pour ces choses-là. Effectivement, ça me faisait penser par rapport à la question, est-ce qu'il y a des gens qui n'admirent jamais ? Je crois que c'est une infirmité, c'est un handicap, mais que c'est aussi un aveuglement. On admire toujours, mais on n'est pas toujours conscient de ce mouvement d'admiration qui peut nous attirer vers certaines choses ou personnes autour de nous.
Alors pour La Rochefoucauld, c'est un signe de grande médiocrité que de toujours louer modérément. Vous êtes d'accord avec cette maxime, Michel Crépu ? Il n'y a pas d'admiration moyenne, on n'admire jamais du bout des lèvres.
Alors, étant en ce moment en train de relire Malraux, effectivement, l'admiration a besoin de quelque chose d'autre que la moyenne. Même si la moyenne peut faire l'objet d'un éloge. Mais je pense à un exemple qui est rappelé dans Malraux, dans le volume Les Réels. Il regarde un tableau de Piero della Francesca. C'est ce tableau très célèbre de la résurrection du Christ. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez, les soldats qui sont affalés contre le tombeau, et puis le Christ qui se dresse comme une sorte de pompier, de service, comme s'il se demandait, il sait pas très bien ce qu'il fait là. Et Malraux a cette remarque extraordinaire. Il dit, dans ce qui est incroyable dans ce tableau, c'est qu'il y a une lumière, mais il n'y a pas de soleil. Alors d'où vient la lumière s'il n'y a pas de soleil ? Et ça, c'est le début d'un processus d'admiration, je trouve. On est dans un étonnement initial qui vous déroute, qui vous déstabilise et qui vous met en mouvement. C'est extraordinaire.
Laurence de Villers.
Je pense effectivement que l'admiration n'est pas du tout quelque chose, me semble-t-il, hein, qui s'accommode des demi-mesures. C'est-à-dire que il faut quand même la force de s'extraire de soi-même, d'être transporté, d'être élevé. Donc, Martin disait des héros, c'est peut-être un peu bête d'utiliser le terme, je crois pas. Je crois qu'effectivement, et peut-être que si on fait cette émission, c'est que notre monde, désolé, a peut-être une soif de héros. C'est pas les dieux qu'on soif, c'est les hommes ont soif, je crois. Et il me semble que faut pas avoir peur de dire que l'héroïsme peut être parfaitement ordinaire, mais que c'est ça, on a besoin de héros à admirer.
Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission, d'où appelez-vous Laurence?
De Cormolin.
Alors,
dans Normandie.
Très bien, qui admirez-vous Laurence?
Alors moi, la personne que j'admire le plus, c'est mon mari.
Pourquoi?
J'y crois pas.
Pour tout ce qu'il est capable de faire, de se dépasser en permanence. Il arrive à travailler 60 heures par semaine, plus il travaille sur une invention pour déposer un brevet jusqu'à minuit, 1h du matin. Il reprend le lendemain matin à 7h le matin. Donc moi j'admire ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'accomplir, la persévérance qu'il a, le courage qu'il a. C'est vraiment bluffant tout ce qu'il est capable de faire, de mener à bien. Il n'y a rien qui l'arrête.
Et Laurence, est-ce que lui vous admire?
Je ne sais pas.
Vous lui poserez la question ce soir. Vous lui poserez la question ce soir. Merci beaucoup pour votre témoignage, Laurence. Question de Marie-Laure Sunshine.
Oui, par rapport à ce que vient de nous dire Laurence, est-ce qu'il n'y a pas le revers de l'admiration qui est finalement un peu la déception? C'est-à-dire qu'il doit toujours être, alors on reprend le mari de Laurence, il doit être au top en permanence. Est-ce qu'il a le droit à l'erreur? Est-ce que la faille est possible? Et quelle en est la conséquence pour cette pauvre Laurence qui pourrait d'un coup effectivement être extrêmement déçue?
Laurence de Villers.
Alors, je précise que je n'admire pas du tout mon mari, puisque je n'en ai pas. Alors là, on touche à une question délicate. Est-ce qu'il peut y avoir de l'admiration dans l'amour? Parce que l'amour comporte quand même, à tort ou à raison, de façon pathologique ou normale, l'idée de fusion, donc au-delà même de l'égalité. C'est l'égalité extrême, puisqu'il faut fusionner et être une seule personne. Dans l'admiration, il y a ce décalage, il y a quand même une asymétrie. Je m'interroge, est-ce que l'amour n'est pas ce qui exclut l'admiration?
Et Lauréa nous dit sur notre page Facebook, je n'ai jamais admiré personne, j'ai toujours eu le sentiment de me rabaisser en admirant, mais aujourd'hui et depuis 9 ans, j'admire l'homme que j'aime, et je sais que c'est parce que je l'admire, que je l'aime, et que ma passion pour lui ne faiblit pas. Christophe André.
Ouais, je crois que l'admiration qu'on peut avoir pour son conjoint, c'est une réalité quand même, mais c'est une admiration qui est plus subtil que l'admiration en bloc de quelqu'un qui est mort, qui n'existe pas, qui est loin de nous. C'est l'admiration de quelqu'un dont on connaît parfaitement les défauts et les limites, et que pourtant, on continue d'admirer pour certaines de ses qualités. Et je crois que ça, c'est à la fois possible et c'est du pain béni pour le couple.
Allez, vous gardez le micro. C'est l'heure de vos choses vues, Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose
vue.
Est-ce que les animaux, je veux dire les animaux non humains, admirent? Est-ce que les aigles admirent les montagnes ou est-ce qu'ils se contentent d'y chercher leur proie? Est-ce que les chiens admirent leur maître ou est-ce qu'ils les aiment simplement? Difficile à dire. Alors, je me contenterai de parler des humains, car l'admiration me semble tout de même une émotion très humaine. C'est quoi exactement admirer? C'est d'abord être surpris ou touché. C'est ensuite reconnaître des qualités à un lieu, un objet, une personne. Et c'est enfin s'en réjouir, s'en trouver mieux, grandi, inspiré, plus heureux. Admirer, c'est facile pour des lieux ou des choses. Admirer un paysage, un bel objet ou une œuvre d'art, cela ne nous remet pas en question. Mais c'est parfois plus difficile entre humains. D'un côté, admirer quelqu'un, ça peut nous réjouir sincèrement, sans arrière-pensée. Quoi de plus agréable qu'admirer une personne disparue, un de ses enfants, un de ses amis? Mais parfois aussi, admirer peut nous mettre à mal. Car admirer, c'est faire le constat que l'autre a des qualités que l'on n'a pas. En tout cas, pas autant que lui, ou pas pour le moment. Dans ces cas-là, l'admiration devient douloureuse. Elle est le constat d'un manque en nous et s'avère alors une occasion de souffrance au lieu d'être une source de réjouissance et d'inspiration. C'est un premier mésusage possible de l'admiration. Une autre erreur consisterait à n'admirer que le rare et l'exceptionnel, alors que les sources d'admiration quotidienne sont multiples tout autour de nous.
La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique, donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là.
Écoutons jusqu'à la fin, Ali. Je sais que vous n'aimez pas Luis Mario. Enfin, admirable,
on avance.
Alors, je vous laisse juge de savoir si cette chanson est admirable, mais elle est au moins joyeuse et légère, ce qui n'est déjà pas si mal. À propos de ce que nous choisissons d'admirer, Montesquieu parlait de la décadence de l'admiration, de son dévoiement, consistant à admirer des actes ou des personnes qui, au fond, ne mériteraient pas de l'être. Disons qu'il s'agit plutôt d'une erreur, d'une facilité, d'une docilité, consistant à n'admirer que le clinquant, le bruyant, le à la mode, à n'admirer que ce qu'on nous dit d'admirer, à n'admirer que le grandiose et non le discret, que les vedettes du sport, du cinéma ou de la télé, et non les humains anonymes qui font le bien dans leur coin. Peut-être nous faut-il alors apprendre à admirer même ce qu'on ne nous présente pas comme socialement admirable, et pour cela nous attacher à bien regarder, à voir ce qui est beau et bon autour de nous, voir les comportements, paroles et attitudes admirables au quotidien. Peu d'humains sont admirables dans tous leurs gestes et tout le temps, mais presque tous peuvent être admirés à un moment donné. Les études scientifiques montrent largement les bénéfices de l'admiration. Admirer, d'abord, ça fait du bien, comme toutes les émotions agréables. Ensuite, ça nous décentre de nous-mêmes et ça nous rapproche des autres humains. Ça augmente ce qu'on appelle les comportements prosociaux. Et enfin, ça nous motive et ça nous inspire. Alors, plusieurs fois par jour, ou le soir en s'endormant et en songeant à sa journée, nous pourrions nous livrer à des exercices d'admiration. Qu'ai-je vu d'admirable aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que ça m'a montré? Et qu'est-ce que ça m'a appris? Nous apercevrons alors peut-être qu'admirer transforme peu à peu notre vision du monde. L'admiration, c'est la volonté de porter aussi son regard sur ce qui rend la vie meilleure. Toutes les fois où nous admirons, nous percevons que nous sommes face à quelque chose ou à quelqu'un qui ajoute à la beauté, à la douceur et à l'intelligence du monde. Et c'est aussi cette inspiration-là qui peut nous aider à le changer, le monde, lorsqu'il ne va pas. Vous, cher ami, qu'est-ce que vous avez admiré récemment?
Une personne que j'admire?
Quelque chose, quelqu'un.
Oh, moi, j'admire, j'ai une fidélité pour Sampé. J'admire sans borne, Sampé.
Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but heaven is so strange. She said you were a hero, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know. She was sleeping in your clothes, clothes. But now she's got to get to class. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but heaven is so strange. I thought that I was special. You made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? for you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know.
Et on vient d'écouter le dernier titre de Billie Eilish, Your Power.
Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dev, les Sardou, rentraient de boîte de nuit pété comme des coins,
grand bien vous fasse.
Claude, des potrons minets, il était ici.
Sur France Inter.
Et yogué.
Et on s'intéresse cet après-midi à l'admiration avec les philosophes Laurence de Villers et Martin Legros et avec l'écrivain Michel Crépu.
Et vous postez combien de vidéos, que ce soit par jour ou par semaine ?
Une vidéo le mercredi, le samedi, donc là j'ai mes IGTV. Dimanche ou lundi, ça dépend. Je fais soit un autre tutoriel, soit vidéo danse. J'ai un programme assez précis et je pense aussi que c'est ça qui fait que mes abonnés sont aussi fidèles, je pense.
Maman, tu sais ?
Qu'est-ce que vous aimez chez elle ?
Elle est vraiment simple. Elle aime bien faire du bien pour les autres. Elle est là pour nous. Mais elle est vraiment unique, Léa.
Bah si, on va pouvoir le faire. Pour moi, Léa, c'est un petit mix entre une américaine, une latinos, le chic parisien. C'est un petit mix de tout ça.
C'est important pour vous de les voir, d'avoir un vrai lien qui ne soit pas juste par les réseaux.
Je ne sais pas si je serais là à l'heure d'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas été là pour moi. Donc ouais, mon but, c'est vraiment... d'être là pour eux un maximum.
Extrait de l'émission Clic sur Canal+, en janvier dernier. Martin Legros, on pourrait se moquer de cette jeunesse qui admire les influenceurs, les youtubeurs, les instagrammeurs, les tweetos, les tiktokers, qui sont devenus des sujets d'admiration pour des millions d'entre nous. La plupart d'entre nous sommes dépassés par cette admiration et vous en faites un très bon papier dans le Philosophy Magazine.
Oui, on a essayé d'interroger des sociologues, mais aussi des philosophes sur ces phénomènes d'engouement, on a l'impression que les influenceurs ont remplacé les hommes d'influence. Alors, ce qui est intéressant, au-delà des phénomènes, je dirais, qui sont typiques de l'adolescence, de l'idéalisation, l'identification à des stars et des hommes publics, avant c'était Hollywood, aujourd'hui c'est YouTube, ce qui est nouveau et ce qui je trouve intéressant, c'est, et qui apparaît dans cette enquête, c'est l'idée que ces individus, ces YouTubers, ces influenceurs, s'intéressent, explorent, révèlent le quotidien. Et ils ont le courage de parler aux adolescents de questions tout à fait quotidiennes, très concrètes, de la vie, du réveil, de l'amitié, des désillusions amicales, de comment est-ce qu'on s'habiller. Et donc c'est une sorte d'identification qui nous surprend énormément parce que nous avons besoin d'admirer des choses grandioses, des choses un verbe haut, de la poésie, des grandes images. Et là, il s'agit plutôt d'une sorte d'exploration en commun avec cette génération du quotidien. C'est un regard à la fois enchanté et avec beaucoup de dérision aussi, d'autodérision sur qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne des adolescents. Et je crois que c'est ça qui fait la nouveauté. La deuxième nouveauté qui est très surprenante, c'est aussi le fait que l'admiration se fabrique aujourd'hui en réseau. C'est pas une formule, c'est par exemple, ma fille de 10 ans est allée la semaine dernière au dernier concert de Angèle à Paris, et à ce concert, il y avait Thibaut Henchy, il y avait Carlito, c'est-à-dire tous des youtubeurs qui venaient en quelque sorte accréditer la réputation d'Angèle ou bien s'abreuver de la réputation d'Angèle. Et il y a une sorte de fabrique en commun de ce réseau de stars, et donc il y a plus des influenceurs en solo, c'est plus des hommes d'influence, des individus grands et nobles, c'est des réseaux, c'est des groupes, et ils parlent et ils s'accréditent en réseau. Voilà les deux choses qui me semblent les plus intéressantes. Après, il y a beaucoup de conformisme, il y a des marques, il y a de la publicité, il y a tout cela, et ça a toujours été.
Et Michel Crépu, je rappelle que vous êtes le directeur de la Nouvelle Revue Française, vous comprenez ces admirations pour ces influenceurs?
J'ai vous avoue que j'ai du mal, parce que l'admiration pour moi a toujours une dimension profondément individuelle, c'est quelque chose qui est très très intime d'une certaine manière, et donc je vois bien aujourd'hui la puissance des réseaux, mais elle ne me convainc pas, enfin elle ne m'apporte pas, en tout cas pour le peu que je la pratique, c'est-à-dire vraiment très très peu, pour ainsi dire pas du tout, je n'y trouve pas ce que je trouve dans l'admiration. Et je pensais, en écoutant Martin Legros, c'était très intéressant son discours, et je pensais à ce peintre italien Morandi qui a passé sa vie à dessiner des pots, des cruches, des assiettes, des verres, des bouteilles, et qui est un des plus grands peintres du XXe siècle. Et on voit bien que pour lui, quand on regarde ses tableaux, la solitude d'un verre a quelque chose de fascinant. C'est un univers en soi que le peintre doit arriver à restituer, à transmettre aux spectateurs. Alors là, pourquoi pas parler de réseau, mais bien sûr, c'est une autre dimension.
Laurence de Villers.
Oui, c'est surprenant parce que l'admiration a plutôt le sens de quelque chose d'exceptionnel. Enfin, c'est de l'admiration face à de l'exceptionnel, mais de l'exceptionnel qui peut être dans le quotidien. Et les silencieuses. Enfin, c'est Pascal qui disait qu'à un moment donné, face à l'immensité de l'univers, on est à la fois saisi d'effroi, de silence et d'admiration. Donc il y a quelque chose de silencieux, alors que là c'est très bavard. Enfin le réseau parle beaucoup. Donc je me demande si cette admiration en réseau, sans la condamner, hein, sans la fustiger, mais je me demande si c'est pas le mouvement perpétuel du plaisir, si c'est pas une extension du fun.
Oui, mais Laurence, l'admiration était aussi très éloquente. On a envie de parler, de partager ce qu'on admire.
On commence par se taire.
Oui, mais une fois qu'on est convaincu qu'il y a là quelque chose à admirer, on veut le faire partager.
On a envie de partager.
On en parle. On a envie de partager. On a envie d'être transporté. Puis on le disait, on a envie d'être en mouvement soi-même.
On a envie de contaminer l'autre avec son objet d'admiration.
Oui, parce qu'il y a un enthousiasme, et l'enthousiasme, c'est la contamination. Mais là, je me demande si cette admiration en réseau n'a pas comme source quelque chose d'autre que le coup d'arrêt devant quelque chose de plus grand que soi. Je me demande si c'est pas la recherche perpétuelle du fun, du plaisir. C'est autre chose que l'admiration.
Bonjour Sophia, bienvenue.
Bonjour.
Alors, qui admirez-vous ?
Alors moi, j'ai admiré très très longtemps mon père, et très très tard en fait, et de la mauvaise manière.
Mmh.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il fait partie de tellement d'associations, il a tellement de valeurs, il est tellement humain, aime tellement les gens, que en fait, ça en devenait compliqué. Je me suis rendu compte que ça en devenait compliqué pour moi parce que je l'avais mis un trop au piédestal et je me sentais pas à la hauteur en fait.
Mm-hmm.
Et puis il y a plusieurs années, j'en ai parlé avec lui et voilà, je l'ai maintenant. Je pense que je l'admire, mais d'une autre manière et beaucoup plus saine et beaucoup plus simple. Mais avant, ça n'a pas été simple.
Merci beaucoup Sophia pour votre témoignage. L'admiration peut se transformer en aliénation. Michel Crépu, vous écrivez dans votre livre « Admirer, c'est toujours se trouver en instance virtuelle d'hypnose, d'aliénation ». Et vous dites « c'est une possibilité, pas une fatalité ».
Oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs, parce que sinon nous serions dans un univers qui d'ailleurs ressemble aussi un peu à l'univers Houellebecquien, c'est-à-dire où les êtres humains sont complètement pris par des déterminations qui les définissent du début à la fin, c'est terrifiant de fermeture.
Je vous lis quelques courriels que nous avons reçus. Je donne des cours aux migrants. Voilà des gens que j'admire. Il aura fallu un courage extraordinaire pour quitter pays et famille et poursuivre des traversées inouïes. Et une fois arrivé, de ne pas flancher et avoir encore du courage pour repartir de zéro. Superman peut se rhabiller. Marjorie nous dit « Je n'admire pas facilement, mais Boris Cyrulnik me semble digne d'admiration. Que quelqu'un qui ait vécu des choses aussi dures soit resté aussi bienveillant. Voici qui me semble très inspirant. »
Mais c'est-à-dire que cette vision de la panthère m'a, contrairement à ce que je croyais, m'a provoqué beaucoup de choses en moi, à révéler, à faire remonter, à faire revenir à la surface de, à la fois de ma mémoire et de ce qui peut me servir d'esprit, à faire venir des présences que j'avais profondément enfouies en moi-même, des êtres très chers qui avaient disparu, des êtres qui m'avaient quitté. Ça s'appelle, c'est très banal ce que je dis, ça s'appelle les tourments de la vie, les tourments ordinaires de la vie. Et puis tout à coup, la vision d'une bête qui semble descendue du ciel, qui semble apparue de la terre, qui semble sortie de la montagne, tout à coup, vous ramène au plus profond de vous-même. C'est-à-dire que voir ces bêtes qui appartiennent à un très très vieil âge, tout à fait immémorial, mais qui est en train de disparaître, c'est une rencontre avec soi-même.
Extrait du 7-9 de France Inter, et on vient d'écouter Sylvain Tesson à propos de son admiration pour la panthère des neiges. Est-il possible d'admirer un animal, tiens, Martin Legros?
Oui, Christophe André se demandait si les animaux s'admiraient entre eux. Ça, c'est une énigme, à mon avis, insoluble, mais il est certain que les hommes admirent les animaux. Et comme le montre très bien Sylvain Tesson dans son livre La panthère des neiges, il y a un jeu à la fois de fascination et de projection sur le monde animal, la grâce du monde animal, le silence du monde animal, son impassibilité, le fait que la panthère, elle évolue dans un univers en faisant totalement fi du regard qu'on peut poser sur elle. Tout cela fait en effet que nous sommes fascinés et nous ne pouvons qu'admirer les animaux. Donc oui, incontestablement.
Laurence de Villers.
Oui, là, on est face à une autre modalité de l'admiration, c'est l'admiration-fascination. Et Sylvain Tesson l'a dit, et je trouve que son livre est une sorte de métaphysique de la présence. Parce que c'est ça qu'on admire. C'est tout d'un coup une présence qui a du poids, qui est vraiment présente, qui est vraiment là, et qui, de fait, nous redonne des racines qu'on n'avait peut-être pas. Et il le dit, ça fait remonter aussi des sortes de présences immémorielles, les gens qu'on aime et qu'on n'a plus, même peut-être les gens qu'on n'aime plus ou qui nous aiment plus. Il y a quelque chose d'à la fois qui nous enracine dans le présent et dans la présence et en même temps de profondément nostalgique.
Martin Legros, dans Philosophie Magazine, vous posez une question intéressante. Avons-nous besoin de modèles pour agir moralement?
Oui, c'est une grande question de philosophie morale. Et je crois que la meilleure réponse a été donnée par Emmanuel Kant, qui était partagé. Il disait, il partait d'un argument en réalité tout à fait logique. Il dit que que les modèles qui se présentent à vous, pour que vous puissiez les reconnaître comme des modèles, c'est que vous disposez déjà de la loi morale dont ils sont l'incarnation. Et que donc, vous n'avez pas besoin de modèle pour découvrir cette loi, mais c'est au contraire la possession de cette loi qui vous permet d'identifier ceux qui sont à la hauteur de cette loi. Mais il ajoutait ceci en disant il ne faut pas tout à fait évacuer le rôle des modèles. Il prenait l'exemple du Christ, mais on peut en prendre beaucoup d'autres. Il disait ce que les modèles nous donnent à saisir dans la vie morale, le rôle des modèles dans la vie morale, c'est de nous encourager en nous montrant qu'il est possible d'être à la hauteur des exigences morales qui sont les nôtres. C'est-à-dire que la loi morale n'est pas simplement une loi qui est formidable et qui tombe sur nous, mais que dans la vie réelle, il y a des êtres comme le Christ, comme des héros, qui sont capables d'être à la hauteur de cette loi. Voilà à quoi servent les exemples.
Allez, pour terminer, une question très difficile. Qui admirez-vous autour de la table? Ça tombe sur vous. Tiens, Laurence de Villers.
Alors moi, c'est Isabelle Autissier. C'est pas Descartes, contrairement à ce que vous imaginiez, Ali.
La navigatrice.
La première navigatrice de course en solitaire à la voile. Parce que la mer est le milieu hostile pour l'humain par définition, et puis parce qu'elle l'a fait seule. Et je crois que le fameux « connais-toi toi-même » de la philosophie n'a pas de poids ou de sens tant qu'on n'a pas affronté soi-même en tête à tête.
Martin Legros.
Oui, ben moi je dirais au quotidien, ma sœur Fanny, qui est mon aînée, qui m'a appris beaucoup de choses, mais surtout qui a traversé une épreuve très très dure. Elle s'est fait lourder par son l'homme de sa vie à 40 ans. Elle a refait sa vie, elle a construit, elle a éduqué ses deux fils, et surtout elle est avocate et elle s'est spécialisée depuis dans le droit familial, et elle répare en quelque sorte les vies brisées, les couples brisés, les familles abîmées avec des conciliations, etc. Et comme si elle avait en quelque sorte été traversée par l'adversité et utilisée cette épreuve pour en faire quelque chose, et je trouve ça admirable.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Bravoure, courage, don de soi, je citerai les Justes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre, et beaucoup plus proche de nous, Latifa Ibn Ziaten, dont le fils a été tué par Mohamed Merah et qui a créé une association. C'est une femme absolument remarquable.
Christophe André.
Moi, j'aime beaucoup admirer les anonymes. J'aime les petites choses simples, mes filles, ma femme, mes amis, des inconnus dans la rue, lorsqu'ils sont en situation admirable, effectivement, lorsqu'ils font le bien, lorsqu'ils aident autrui, lorsqu'ils font quelque chose dont je ne me sentirais pas capable à cet instant.
Nous avons hélas perdu au téléphone Michel Crépu, mais dans son livre L'admiration, je vous conseille de lire son exercice d'admiration pour Roland Barthes. Pour terminer, j'aimerais citer le poète Jean Mambrino. Pour admirer, il convient de cultiver l'ouverture d'esprit, toutes les vertus de détente, de disponibilité, de confiance, un certain goût d'approuver, de consentir à ce qui est différent de soi, d'acquiescer à ce qui nous dépasse. Merci Laurence de Villers, Martin Legros, Michel Crépu. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur l'appli et sur le site de France Inter. Demain, pourquoi sommes-nous beaucoup plus heureux ensemble dans l'interdépendance avec Christophe André et Rebecca Chanclandre.